Bonjour et bienvenue à Regards Creusés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Bonjour Arlette.
Bonjour Fulgence.
Oui.
Alors, quoi de neuf aujourd'hui?
Ne me demande pas comment je vais. Hein.
Non.
Je manque de soleil, ça me rend un peu...
Alors,
voilà, ça va.
Alors, le Fulgence négatif ne m'intéresse pas, donc passons tout de suite à l'émission.
Je pense que tu aimes mieux, tu aimes beaucoup plus le soleil que moi. Oui. Voilà, je sais comment tu es joyeuse quand il y a du soleil. Allez, on y va. On commence, Arlette, Aujourd'hui, on m'a fait des présentations des nouveautés littéraires.
Ah,
toute la
bien.
Première partie de l'émission. Voilà, et puis qu'est-ce que tu nous proposes en deuxième partie?
Eh bien, en deuxième partie, on va recevoir la metteuse en scène Catherine Bourgeois pour une œuvre théâtrale qui s'appelle Violette et qui est présentée à l'Espace Libre. Alors, on vous en dit plus dans la prochaine demi-heure, donc restez avec nous.
Oui, on voit musique tout de suite.
Ben oui, avec...
Avec les fils du facteur, danser sous la pluie.
Allez.
Bien sûr, tu t'es encore trompé et tu redémarres à zéro comme tu l'as déjà fait 100 fois. Bien sûr, tu cherches à t'accrocher, mais plus le temps passe et moins tu trouves justement t'accrocher à quoi. Bien sûr qu'avant t'avais des rêves et la croix que t'as fait dessus, tu l'amènes à ton Golgotha. Et bien sûr, tous les jours, t'en crèves de compromis, en frustration, tu t'es mis dans un sale état. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. C'est un truc que t'oublies, mais plus tu prends de l'âge, quand tu passes plus entre les gouttes, faut juste danser sous la pluie. Bien sûr, ta moitié s'est barrée. T'es tout seul avec l'impression que le meilleur est derrière toi. Bien sûr, l'amour ça fait pleurer. Et une fois la rose effeuillée, on a des épines plein les doigts. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. C'est un truc que t'oublies, mais plus tu prends de l'âge, quand tu passes plus entre les gouttes, faut juste danser sous la pluie. C'est un deuil constant, les larmes ont peu de temps pour sécher. Bien sûr, ce qui tue parent plus fort, tu partiras donc en dernier, tout vieux, tout seul et tout fripé. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. Faut juste danser sous la pluie.
Et voilà.
Faut juste danser sous la pluie.
Voilà.
Les fils du facteur.
Qu'il fasse beau ou pas beau, faut danser.
Dansons. Voilà, ça donne du soleil au cœur. Alors, Alerte, c'est parti. Quelques nouveautés littéraires l'émission aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu as à nous proposer en lecture?
Il y a quelques nouveautés littéraires. Bon, il y a L'inexistence de David Turgeon, éditeur Le Cartanier. Le quartanier, quand j'ai vu ça, j'ai failli penser au mot quarantaine, c'est devenu d'actualité maintenant, le quartanier. Ça s'écrit de la même manière, quarantaine, quartanier.
Ça commence un petit peu pareil, t'exagères pas un peu, Fulgence voilà.
Quarantaine. Bon, mais c'est paru déjà le 26 avril, là, il n'y a pas longtemps.
Et c'est qu'est-ce que frais. C'est comme histoire?
C'est un roman. Bon, avant la guerre, Karel Ender habite à Privine. Il est fonctionnaire de l'administration impériale. C'est toujours mieux que ce qu'on entendait, qu'on attendait sa famille. Ses amis se nomment Isabelle Van Duyck, fondatrice d'une résidence utopique. Jean Faber, militant politique de gauche. Nina Fischer, journaliste et de renom donnant de son temps au secours des réfugiés.
D'accord.
Ilia Reberg, jeune dramaturge intéressée par la question cadienne. Ça vient. Puis la grande histoire tombe sur Privine. Voilà. C'est une ville, c'est un village. Et efface le souvenir de cette communauté. Des années plus tard, l'historienne Sabine Olloron rencontrera le nom de Karel Ender dans ses recherches. Peut-être saura-t-elle dire la morale de cette fable. Hein, Arlette, c'est ça. Alors, qui est David Turgeon? C'est l'auteur de 5 romans, dont Simone au travail, Le continent de plastique et les bases secrètes et 2 essais à propos du style de Jeunette, tous parus au Quartanier. Voilà. En 2020, il a publié La voix derrière le voile. Un article théorique sur l'acousmatique et la mort du narrateur dans la revue poétique. Il exerce à Montréal le métier d'informaticien. C'est l'informaticien qui s'est mis aussi dans la littérature.
D'accord.
Voilà, c'est que la littérature...
Comme quoi l'informatique mène à tout.
Mène à tout aussi, ou bien la littérature mène à tout. Voilà. On continue. Bon, je vais. Arlette, je vais te parler maintenant des tout nouveaux là qui sont sortis hier. Aujourd'hui, c'est le 5, non, hier, c'était le 4.
D'accord.
Voilà, le 4. Comme des sentinelles, Jean-François Letourneau. C'est sorti hier. Édition collection Boréal Compact. Chargé de cours en littérature, Vincent Silvestre rêve d'un ailleurs et de nouvelles perspectives. En attendant une vie meilleure, il s'oublie dans l'alcool, la cocaïne et la violence à la sortie des bars de Sherbrooke.
Facilité.
Voilà, un soir, pour tenter de se reprendre en main, il décide sans conviction de se joindre aux narcomanes anonymes. Là, il rencontre non pas le salut ou la guérison, mais Robert Thompson, un homme qui vit à la lisière du crime et de la frontière américaine. J'aime ça. Un homme qui vit à la frontière, à la lisière du crime et de la frontière américaine. L'amitié improbable qui se développera entre
eux deux.
Oui, eux va entraîner bien sûr Vincent dans un monde interlope, fait de chasse au gros gibier, de virées en pick-up et de danseuses nues. Un ailleurs différent de celui qu'il imaginait, mais un ailleurs qui lui permettra quand même de se regarder en face. Ouais, ce livre a été...
D'accord.
Ouais, vas-y, je t'écoute.
Non, parce que quand tu dis que c'est quelqu'un qui tombe dans la boisson et dans la drogue, en plus, il rencontre un gros voyou, comme on peut appeler ce genre de personnage. Donc, ça veut dire qu'il est entraîné encore plus par le bas. Donc, s'il arrive à sortir de là, je suis curieuse de savoir comment.
Ouais. Sélectionné pour le prix des libraires en 2013, comme des sentinelles, dresse le portrait sans concession d'un homme au bord de l'abîme, hanté par son passé et ses échecs.
D'accord.
Il dessine aussi en filigrane la trajectoire incandescente d'une famille, les Sylvestres, et d'une génération fin de siècle que Jean-Philippe Martel déploiera de plus belle dans Chez les Sentinelles, Boréal, 2021. Voilà, alors c'est quelque chose de ce genre comme ça.
D'accord. Voilà.
Oui, et puis il y a un qui est sorti aujourd'hui... Voilà.
Qui est sorti aujourd'hui?
Oui,
tu peux encore le dire.
Ouais. Aujourd'hui, c'est le 5. Je ne me trompe pas de date. Hein. Ouais. L'été de la sorcière. Nachiki Kao. Ça, c'est un nom bien japonais. Donc, ça a été traduit par Deborah Pierre Watanabe. et puis paru hier, aujourd'hui même, là, c'est en librairie dès aujourd'hui. Éditeur Philippe Piquier, collection littérature Japon. C'est une jeune femme de 25 ans qui perd la voix. On passe lentement un col et au bout de la route, dans la forêt, c'est là, la maison de la grand-mère de Maï, une vieille dame d'origine anglaise, menant une vie solide et calme au milieu des érables et des bambous. Maï, qui ne veut plus retourner en classe, oppressée par l'angoisse, a été envoyée auprès d'elle pour se reposer. Cette grand-mère un peu sorcière va lui transmettre... Qu'est-ce qu'elle va lui transmettre ? Les secrets des plantes qui guérissent et les gestes bien ordonnés qui vont lui permettre de conjurer les émotions qui nous étreignent. Arlette.
Eh ben c'est celui-là est plus dans ma... Disons que je le comprends mieux, j'en comprends mieux l'histoire et je suis plus attirée par cette histoire-là. Comme quoi, oui. Quel en est le titre déjà ?
Le titre ?
Oui.
Attends, là, tu me ramènes. L'été de la sorcière.
L'été de la sorcière. Ah ben déjà... Oh. Déjà, le titre me fait rêver un peu. Donc,
Ah bon ?
Oui.
Tu aimes les histoires de sorcières ?
Oui, j'aime ça. Tout dépend comment c'est écrit, mais là, c'est pour un apprentissage pour le meilleur, pour le mieux. Donc, tout ce qui est pour le mieux, je suis pour.
Oui, d'accord. Voilà. Tu me permets de continuer ?
Bien sûr, je t'en prie. Tu me posais la question, alors je te réponds.
Oui, c'est normal. Cueille des fraises, des bois et en faire une confiture d'un rouge cramoisi, presque noir. Ouais. Prendre soin des plantes du potager et aussi des fleurs sauvages, simplement parce que leur existence resplendit. Écouter sa voix intérieure. Ce n'est pas le paradis, même si la lumière y est si limpide, car la mort habite la vie et, en nous, se débattent les ombres de la colère, du dégoût, de la tristesse. Mais auprès de sa grand-mère, Maï apprendra à faire confiance, oui, aux forces de la vie et aussi aux petits miracles tout simples qui nous guident vers la lumière.
Ah ben bah voilà, beau, hein. Voilà, c'est beau. Voilà qui...
Tu as fait un très bon choix, je comprends pourquoi est-ce que tu as été...
voilà qui mérite la petite pause musicale après ça.
Ouais. Non, laisse-moi, il y a une petite phrase qui vient là-dessus.
Ah,
donc
d'accord.
C'est un livre qui prend sa source dans les souvenirs d'enfance de l'écrivaine, bien sûr. Et coule en nous comme une eau claire. Musique.
Oh, super.
J'aimerais tant m'enfuir. Plus le temps passe, plus je te fais souffrir. Je n'y peux rien, mais je dois en finir. Lâcher tes mains et te laisser partir. Promets-le-moi, ferme les yeux et respire. Une dernière fois, je veux te voir sourire. Avant la fin, avant que l'on se quitte. Pour moi demain, ce ne sera qu'un souvenir. J'avais tout fait pour m'enfuir, mais je t'aimais tant. Je suis tombé dans le vide est grand. Si j'ai perdu l'équilibre, c'est la faute au vent qui m'a poussé loin de toi au mauvais moment. J'avais besoin d'être libre depuis longtemps.
Ce qu'on vient d'entendre comme pièce musicale maintenant, c'est du duo Johnny et Jane.
Yes. Voilà.
Arlette, je vais parler un peu de cet auteur là qui nous a fait rêver, qui nous fait rêver avec l'été de la sorcière quand même.
Oui.
Oui, oui. Nachiki Kao, qui est né à Kagoshima. Ouais, quand on entend ça, c'est au Japon, c'est pas au Québec, ça.
Ah bon?
Oui, c'est pas au Québec, Kagoshima. C'est une île de Kyushu qui écrit pour les adultes, mais également pour la jeunesse aussi. En 1994, alors qu'elle travaille pour le célèbre psychologue japonais Hayao Kawai, elle lui donne à lire un texte qu'elle s'essaie à écrire depuis 2 ans. Donc, il est tellement enthousiaste qu'il l'envoie à un éditeur. Ce premier livre, L'été de la sorcière, on saura s'il aura un magnifique succès et sera couronné de 3 prix avant d'être adapté au cinéma en 2008.
Ah, d'accord.
Voilà, voilà. Et puis, on va aller tout de suite avec quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup, qui nous parle de... C'est un livre de jeunesse, hein, Le dernier viking, Mario Fecteau. C'est un Québécois qui se consacre à plein temps à l'écriture, il vit de sa plume. Voilà quelques-uns qui arrivent à vivre de leur plume en écrivant.
Heureusement, il y en a, oui.
Ah oui, mais quelques-uns, oui. On n'a pas besoin forcément de sortie du Québec. Oui, il ne fait que ça. Bon, ben voilà. Là, le dernier viking parle de quoi? En co-adolescent, Astrid et John ont été forcés de devenir adultes avant l'heure. Voilà déjà 5 ans que leur père, Finn Nilsson, a quitté le petit village de la Suède pour participer à une expédition dont il ne devait plus jamais revenir. Mais un matin, l'espoir renaissant crie gare dans le cœur des jumeaux. Un navire accoste au village avec à son bord l'un des membres de l'équipage de leur père. L'homme n'a plus toute sa tête, mais il est bien vivant. Se pourrait-il que Finn Nilsson ait lui aussi survécu? Les deux adolescents s'embarquent alors dans un long et périlleux voyage qui les mènera aux confins de l'Europe, de leur Suède natale à la Sicile, en passant par Constantinople, la Normandie, l'Islande et le Groenland. Malgré les revers cruels et les fausses pistes, Astrid et Bjorn parviendront-ils à retrouver la trace de leur père disparu? C'est sorti le 27 avril 2021. Oui, collection Boréal Inter. Voilà. Mais il écrit, il fait beaucoup de littérature jeunesse. Hein. Je pense bien que c'est pour ça qu'il arrive à vivre de sa plume aussi. Parce que les littératures jeunesse, je pense bien que
ça marche bien.
Voilà, ça fait manger.
Non, alors, qui est Mario? Ça marche bien. Oui.
Ça marche bien, oui, oui. Qui est Mario? Mario, c'est il fait de la. C'est lui qui est auteur de la série fantastique Les Maîtres du Pentacle. Et des 2 autres livres chez Boréal, d'ailleurs. Il a fait ses études à l'Université de Sherbrooke, en rédaction française. Et il a fait le rêve de devenir écrivain en février 1978, après avoir vu le film La Guerre des Étoiles.
Ah, d'accord. Ceci expliquant cela.
Oui, donc à l'époque, seule la science-fiction l'intéressait. Donc il s'est mis à écrire aussitôt un roman, Les Pirates de l'espace, un récit qu'il a retravaillé à de multiples reprises d'ailleurs. Il dit par la suite, il a envisagé de devenir éditeur. Mais malheureusement, il a renoncé parce qu'il sait qu'il ne sait pas dire non et il aurait publié n'importe qui. Lui-même, par exemple. Mario
effectivement, Fecteau. Ça se comprend.
Voilà, c'est un livre de jeunesse, Le Dernier Viking. Alors, de quoi je vais parler encore à Arlette, là, pour qu'elle soit...
Un dernier?
Oui, un tout dernier, là. Comme des sentinelles, Jean-François Le Tourneau, c'est sorti hier.
Oui.
Boréal Compact. Voilà. Là, il rencontre... Oh non, je commence mal. Chargé de cours en littérature, Vincent Silvestre rêve d'un ailleurs et de nouvelles perspectives. En attendant une vie meilleure, il s'oublie dans l'alcool.
Mais tu nous l'as lu, celui-là. Tu
celui-là
nous l'as dit,
comme oui. Des sentinelles. C'est déjà passé
Celui qui se noie dans l'alcool, oui, tu nous en as parlé.
Ouais, ouais, c'est déjà passé, voilà.
Qui rencontre un bandit.
Voilà, un coup de cœur.
Un coup de cœur.
Grande Cucina Vegetariana. Oui, ça, c'est la gourmandise, c'est la nourriture.
D'accord.
Ah oui, oui, c'est le menu végétarien de Carlo Bernasconi. Oui, voilà. Et puis, ça a été illustré par Bertona Nasco Larissa, texte de Walker Martin, et puis traduit par Boisson Hélène, éditeur Joie, La Joie de Lire. J'aime bien ça, c'est paru le 26 avril. Dans la Grande Cucina Vegetariana, Myriam Lang rapporte les recettes simples et les astuces pratiques, je fais comme un italien, du chef cuisinier Carlo Bernasconi.
D'accord. Ouais,
une cuisine familiale riche et variée, inspirée par le soleil méridional italien. Voilà.
La belle cuisine méditerranéenne.
La belle cuisine méditerranéenne, comme tu le dis. Voilà. Comme son titre l'indique, cet ouvrage réjouira les adeptes de la cuisine végétarienne.
Ah, alors, c'est pour la cuisine végétarienne, d'accord.
Ah oui, oui. Il y a des Italiens aussi végétariens.
Voilà. Mais c'est une famille italienne. Ça n'a rien à voir avec la race, c'est juste de savoir que c'est un livre de cuisine qui est juste végétarien, quoi.
C'est une famille italienne. Ce cuisinier était installé en Allemagne, au fait. Son D'accord. livre original est en allemand, ça a été traduit en italien et en français.
D'accord.
Voilà. Et comme son titre l'indique, cet ouvrage réjouit les adeptes de la cuisine végétarienne. Au fil des mois, Carlo travaille uniquement fruits, légumes et céréales de saison pour élaborer une assiette quotidienne. Voilà. Donc les menus sont composés dans la digne tradition italienne, antipasto, primo 1, primo 2, secondo 1, secondo 2, et sans oublier dolce. On ne peut pas parler d'italien sans parler de dolce.
Dolce vita. Ah non, ce n'est pas la même.
Voilà, c'est sorti le 26 avril. Ouais, ça a découvert. Ouais.
Ouais, ouais. Et puis au moins, c'est plein de couleurs aussi.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, à découvrir rapidement là, ça c'est quelque chose à découvrir, avec Mukbang, tête première. Fanny Demel confirme son immense talent de conteuse dans ce thriller des temps modernes portant sur un phénomène de plus en plus répandu, les vidéos orgies culinaires. On reste dans le milieu culinaire. Hein. C'est une expérience de lecture inédite, ludique et participative. Ça s'appelle Mukbang, M-U-K-B-A-N-G, tête première de Fanny Demeul. C'est à découvrir.
Très bien, merci.
C'est fini pour aujourd'hui.
Alors,
j'ai
musique.
Beaucoup pensé à toi, hein, parler beaucoup plus de nourriture. On va en musique.
Allez.
Des inconnus, tes doigts font défiler des silhouettes vite oubliées, tes yeux, tes doigts dans la nuit succombent à l'illusion banale des corps qui plongent, qui se dévoilent. Te vois-tu dans ce bateau ou perdu sur ton radeau? Plus belle.
vois-tu derrière les rideaux qu'on t'attend sur ton bateau? Éveillé, tu rêves d'un voyage aux fleurs rebelles. Chauffé par la fièvre d'une vie nouvelle, tu veux trouver l'étincelle. Bombardé, tu crèves d'envie pour un autre ciel. Embrasser les lèvres d'une vie plus belle, tu veux toucher l'essentiel.
Fleur, merci, tes yeux, tes doigts.
Ouais. Une belle chanson.
Arrête.
Oui. Oui, alors restez avec nous parce qu'on va retrouver, Catherine Bourgeois. Donc, on va parler théâtre dans un instant. Alors, rejoignez-nous tout de suite après ça. À tout de suite.
Restez à l'écoute.
Vous écoutez Regards croisés.
Thank you.
Alors nous venons d'entendre René Martel qui nous chantait Le temps du muguet, le muguet de joli mois de mai. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec Catherine Bourgeois. Bonjour Catherine Bourgeois.
Bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors, vous êtes cofondatrice de la compagnie Joe, Jack et John, au sein de laquelle vous faites un théâtre performatif, collectif et inclusif. Alors, vous avez remporté des prix, on en parle dans un instant, mais pour l'instant, on vous reçoit pour parler de cette œuvre théâtrale de réalité virtuelle qui s'appelle Violette, et dont vous êtes occupée, alors j'adore le mot, il faut que je le dise quand même, idéation, scénographie et mise en scène. Voilà.
Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça,
J'adore ce mot idéation, c'est tellement joli.
Oh, ben, mon doux, c'est peut-être pas un mot qu'on a...
Ben, ouais, qu'on ça parle de créativité souvent, pour moi, donc c'est beau.
Voilà, oui, c'est bon, parfait.
Donc, allons à la rencontre de Violette, qu'est-ce que c'est?
Mais Violette, donc c'est vraiment une rencontre, donc une rencontre intime avec un personnage qui s'appelle Violette. Puis qui vous accueille, qui vous accueillera à partir du 12 mai. Donc, une personne à la fois, un spectateur ou une spectatrice à la fois, pour, en fait, partager son histoire. Histoire qui est un petit peu, en fait, qui est un conte de type un peu réaliste magique, mais qui est un conte tragique, où est-ce qu'elle vous raconte son histoire, son passé d'abus qu'elle a vécu. Puis qui est dans une démarche en fait de se confier, de se libérer du poids de ce secret-là pour en fait aller mieux, pour aller vers la guérison. Donc c'est vraiment un conte intimiste, puis qui est en partie donc dans une réelle rencontre, donc avec une actrice qui est en costume devant vous, qui joue Violette de façon réelle, qui est là. Puis la suite de l'histoire après ça qui se passe dans un casque de réalité virtuelle, donc le réel et le virtuel se côtoient côte à côte, voilà, pour mettre toute cette en fait décliner toute cette histoire là.
C'est d'être une performance extraordinaire et à vivre aussi, parce que c'est d'une durée de 25 minutes. C'est présenté en français et en anglais, je dis pour tout le monde. Et cette œuvre, elle aborde les violences sexuelles et autres abus qui peuvent être faits aux femmes en situation de handicap.
Voilà, donc la compagnie, comme vous mentionniez au début, donc on a un mandat inclusif, c'est-à-dire qu'on travaille, là, toutes nos créations ont été faites en collaboration avec des artistes qui sont en situation de handicap. Puis donc, c'est une réalité qu'on côtoie depuis au-dessus de 15 ans, que celle de certains artistes de nos troupes qui sont plus vulnérables donc à l'abus sexuel, à l'abus physique. Donc, dans cette question-là des vagues de dénonciation, de libération de la parole des femmes, des victimes, oui. Nous, on a voulu aussi ajouter notre grain de sel, puis parler de la réalité de femmes en situation d'handicap intellectuel qui sont des proies
plus faciles, oui.
Plus faciles. Puis au niveau des hommes aussi, les statistiques sont beaucoup plus grandes pour les hommes aussi. Donc chez les femmes, on parle de 70 à 90% d'entre elles qui, au cours de leur vie, auront vécu un abus sexuel. Puis
90% hommes, jusqu'à 90%?
Oui, jusqu'à 90%.
C'est énorme.
Tandis que pour les hommes, ça monte jusqu'à 50%. Ce qui n'est pas la réalité pour les hommes sans handicap intellectuel. Donc, c'est vraiment un fléau dont on parle pas beaucoup, évidemment. Mais voilà, donc ça met un peu en lumière, mais le tout, comme je vous disais plus tôt, est dans un... L'œuvre comme telle est dans un rapport réaliste magique, donc c'est pas... de dire qu'on expose cette violence-là de façon graphique ou quoi
non.
que ce soit.
Non, non, on l'a pas. Il faut dire que quand on le vit dans le casque en virtuel, je veux dire, on n'a pas affaire à ça. On ne voit pas d'image tragique ou dramatique. C'est l'histoire qui est racontée, qui est touchante.
Voilà. C'est l'histoire qui... Puis en même temps, c'est une histoire que, en fait, les victimes, les femmes, les hommes qui ont vécu de l'abus vont trouver différentes portes de sortie. Puis pour Violette, c'est la création, à travers la création d'un personnage imaginaire qui est une femme corneille avec qui elle discute, elle s'entretient. Donc il y a cette idée-là du conte, donc d'un personnage un peu mi-femme, mi-oiseau qui vient sporadiquement dans l'histoire. Donc il y a cet aspect-là un peu de transcender la douleur en parlant avec un personnage sorti de l'imaginaire.
Parce que c'est ça, c'est, enfin, on va en parler mieux, on aura du questionnement dans la deuxième partie de l'émission, après la chanson. Mais c'est quand même quelque chose d'assez surprenant, parce que en ayant, en voyant ça en virtuel, avec le casque sur nos oreilles, enfin, ça veut dire qu'on est au cœur même de cette aventure, de cette histoire, comme si on était en tête à tête avec Violette et puis qu'elle venait me raconter son histoire.
Voilà, donc c'est vraiment une rencontre intime, parce que aussi, quand vous arrivez, donc vous êtes seule avec elle, comme spectateur ou comme spectatrice, puis ensuite de ça, c'est vraiment cette idée-là, donc de la confidence, donc de vous parler à vous comme si vous étiez assis dans sa chambre, à travers le casque. Donc il y a vraiment une double intimité, l'intimité réelle puis l'intimité virtuelle aussi, qui se poursuit dans le casque, comme vous disiez.
Comme elle était, comme vous l'avez expliqué, parce qu'on la voit quand même sur scène. Moi je croyais au départ, quand j'ai lu l'histoire, qu'on était tout de suite en virtuel et qu'on ne la voyait que dans le virtuel. Mais en fait on voit la comédienne sur scène avec nous au départ.
Oui, c'est pas tant sur scène que dans le corridor où est-ce qu'elle vous amène jusqu'à sa chambre. Donc on n'a pas utilisé le dispositif scénique typique. Donc, c'est vraiment à la sortie de l'ascenseur, elle vous cueille et elle vous amène jusqu'à sa chambre où vous allez, sa chambre scénographie, donc sa chambre décor,
oui.
Où est-ce que vous allez vous asseoir sur son lit pour qu'elle puisse vous raconter. Même le décor est dans ce registre-là de l'intime, du lieu intime, voilà.
Ben moi, je trouve que ça va être une expérience absolument formidable. Ça se passe à l'espace libre. On en parlera dans un instant. Et mon collègue a des questions aussi, une question à vous poser là-dessus. Mais ce sera après la petite pause musicale que l'on va faire ensemble. Et puis, on revient. En tout cas, c'est un... le sujet est fantastique, il faut en parler. C'est pas fantastique de vivre des abus, évidemment, on s'entend. Mais je veux dire, c'est formidable d'en parler. Mais c'est la manière dont c'est fait. Alors, on en reparlera encore un petit peu plus. Je trouve ça vraiment une très, très belle idée.
Super. Bon, à tout de suite.
À tout de suite.
La pause musicale.
Voilà, alors, on part en musique avec Titlaine qui nous chante « Ton jeu ».
Explique-moi les règlements, parce que je ne comprends pas comment évoluer autour de toi. Tu changes les règles à chaque fois. Explique-moi le but du jeu, je peux jamais gagner avec toi. Rien te fait changer d'idée, tu veux que j'embarque à chaque fois. On est grand et plus rien n'est un jeu, mais parfois avec toi je veux y croire. On est grand et plus rien n'est un jeu, mais toi tu t'en fous. Tu veux que je joue à ton jeu, tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu. Je joue à ton jeu, tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu. Des mots comme un sac surprise, t'as attendu la dernière minute pour te forger une opinion, pour montrer si c'est drôle ou non. Moi j'attends un signe de ta part, je peux te suivre n'importe où. Avec toi tout est une aventure, et quand tu es là j'ose essayer. On est grand et plus rien n'est un jeu, mais parfois avec toi je veux y croire. On est grand et plus rien n'est un jeu, mais toi tu t'en fous. Tu veux que je joue à ton jeu, tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu. Tu veux que je joue à ton jeu, tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu. Quoi penser de tes stratégies? Moi je veux qu'on reste léger, 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 léger. Tu veux que je joue à ton jeu, tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu. Tu veux que je joue à ton jeu, tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu. Je joue à ton jeu, tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu.
Alors, nous voici de retour avec Catherine Bourgeois. Catherine, vous êtes toujours avec nous?
Oui, oui, je suis là.
Alors, Fulgence a une question pour vous.
Oui, Catherine, j'aimerais savoir s'il y a le côté abus ou bien agression psychologique qui est aussi abordé, ou bien vous restez sur le cap, sur le thème seulement agression sexuelle.
Non, on reste sur le cas, l'histoire qu'on met de l'avant, l'histoire de Violette, donc c'est vraiment une histoire d'abus sexuel. Après ça, je pense que au niveau des statistiques des plaintes d'abus, les personnes en situation de handicap intellectuel sont vraiment des cibles. Comme on disait plus tôt, des proies ou des cibles qui sont marquées, en fait, au niveau des statistiques. Donc, ça serait un autre show, un autre spectacle à faire.
OK,
une création,
OK,
je crois.
OK.
Mais,
okay.
Oui, tout à fait.
Il y a tellement d'abus de toutes sortes qu'il est vrai que ça mériterait encore une autre histoire. Mais c'est déjà formidable d'avoir pensé à le créer de cette façon.
Oui, Arlette. Oui. Mais 25 minutes, je trouve que c'est court quand même. Pourquoi pas? Minimum une demi-heure.
Pour entendre une histoire qui va te mettre en colère ou qui va te faire pleurer, je crois que ça suffit. Ou
mais
à laquelle on va partager.
Je dirais que c'est une essence assez intense aussi.
Oui, OK.
On trouvait que le sujet de ce spectacle-là était pas. On a trouvé un médium qui était comme on trouvait comme approprié pour le sujet, parce que c'était pas un sujet vraiment comme est-ce qu'on prend un grand plateau, une grande scène, puis on commence à projeter puis à parler fort. Donc on était vraiment allé pour une forme plus courte, plus intime, puis dans un rapport vraiment un à un, donc
très personnel.
Oui, voilà, très personnel. Puis c'est sûr que c'est une expérience plus intense parce qu'elle est vécue seule. Puis aussi la réalité virtuelle pour ceux qui ont déjà vécu. Donc c'est vraiment une ambiance qui est immersive. Donc tout autour, donc c'est comme un film en 360 degrés autour de vous. Donc vous pouvez tourner la tête, suivre Violette dans son histoire. Donc il y a ce rapport-là aussi. La réalité virtuelle n'est pas un médium dans lequel on plonge pendant comme une heure de temps non plus. On s'est informé un petit peu au niveau de mais combien de temps pouvait durer un film, au niveau de l'attention du spectateur, au niveau aussi de est-ce qu'il y a des réactions physiques, puis après une demi-heure et tout, l'acuité visuelle, etc. Puis c'était autour de d'environ 15, 20 minutes, une demi-heure maximum. Donc on s'en est tenu à ça. Donc le film comme tel, c'est autour de 17 minutes. Puis l'interaction avec Violette et le reste, c'est comme le reste de ces 25 minutes-là. Puis après ça, nous, backstage, à l'arrière-scène, on a une petite chorégraphie de nettoyage. Pour le casque et pour tous les accessoires, le lieu où est-ce qu'on s'assoit, etc. Donc, pour que tout soit vraiment comme... sans COVID, sans virus.
Sans problème. On peut dire aussi que c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Tout à fait. Donc, la question de l'accessibilité est quand même au cœur de notre compagnie. On essaie de faire le plus souvent des spectacles qui sont accessibles. Nos dernières œuvres étaient comme plus accessibles aussi, soit en LSQ, donc en langue des signes ou autre. Oui. Donc, cette fois-ci, c'est malheureusement moins facile au niveau de l'accessibilité pour des personnes sourdes ou aveugles, mais bon, donc le décor, on s'est assuré qu'il était accessible pour personnes à mobilité réduite, en effet.
C'est déjà ça. Alors, vous avez remporté pas mal de prix en mise en scène et vous avez même eu une bourse, alors expliquez-nous un petit peu votre parcours.
Mais je vous dirais que c'est pas un parcours typique.
Ah ben non!
Non, mais à la limite, moi, je viens de la scénographie. Oui. Donc, la scénographie, c'est vraiment plus un rapport au décor, à la scène, au plateau, à l'esthétique, à la plasticité de l'environnement théâtral. Donc, souvent, les gens qui arrivent à la mise en scène arrivent par le jeu. Donc, voilà. Donc, j'ai pas ce lien-là, j'ai pas ce background-là d'actrice derrière moi. Donc, j'ai un rapport un petit peu plus au niveau de l'esthétique. Puis, après ça, en fondant la compagnie il y a 17 ans déjà de ça, ce qu'on avait comme intérêt, c'était vraiment de prendre parole, mais aussi de donner parole, d'ouvrir les plateaux à des voix qu'on entend moins, à des présences, des rites, des imaginaires qu'on voit moins dans nos sociétés. Puis, à l'époque, toute cette question-là de la diversité humaine ou de l'inclusion, etc., c'était un petit peu moins en vogue qu'aujourd'hui, vous vous en doutez.
Oui, donc, ça c'est sûr.
On a eu quand même quelques petits bâtons dans les roues, puis on a continué, on a persisté, puis parce que c'est des valeurs, mais aussi c'est une richesse, je pense que ces rencontres-là, cette diversité-là humaine qu'on tisse dans nos équipes, oui. C'est vraiment une richesse intérieure, puis une richesse, en fait, qu'on déploie de façon théâtrale aussi à chaque fois le plus possible. Donc, pour nous, c'est comme une aventure artistique, puis en même temps, une aventure humaine. Puis voilà, donc ça se développe, ça avance, on prend notre place, puis on est très, très contente, en fait, de comment ça se passe en ce moment. Donc, la tournée, quelques prix au passage, c'est vrai, mais aussi la tournée, la possibilité de sortir de Montréal, puis d'aller à la rencontre de public dans le reste du Canada, etc. Donc, pour nous, c'est vraiment ce plaisir-là de porter cette voix-là, ces voix-là, en dehors de notre ville, etc. Donc, c'est une belle aventure.
Et puis, il faut aussi savoir qu'à l'Espace Libre, vous y êtes en tant que compagnie résidente.
Mais quel luxe, voilà.
Ah, oui, quel luxe. Gâteau, ça.
Pourquoi c'est un luxe?
Parce que c'est un luxe, ça n'est pas un, à la limite, là, mais tu sais, c'est un luxe dans le sens que c'est pas toutes les compagnies qui ont un pied à terre.
Qui peuvent être en résidence.
Oui, voilà, donc un pied à terre comme tel dans le théâtre, donc notre bureau est là. Ensuite de ça, l'Espace Libre est un lieu qui est totalement accessible pour toutes les personnes à mobilité réduite aussi. Donc,
un magnifique endroit.
Oui, c'est pas tous les théâtres qui sont accessibles comme ça. Donc déjà, ça nous aide pour notre mandat. Il y a une grande liberté. Il y a une vision artistique qui est défendue avec passion aussi là-bas. Puis on a des voisins qui sont le nouveau théâtre expérimental, qui sont les cofondateurs de l'Espace Libre. Donc, pour nous, cette invitation-là qui a eu lieu là, deux, trois ans. Bon, on est aménagé juste avant la COVID, mais là, on
juste à temps.
Oui, voilà. Mais là, maintenant, donc d'avoir ces voisins-là, d'avoir accès à des salles de répétition à côté du bureau, un atelier de décor en bas, pour nous, toute cette accessibilité-là est vraiment comme intéressante. Au lieu de courir à droite avec les transports adaptés, de faire un peu ratisser la ville entre les studios de répétition, les lieux de diffusion, etc. Donc, tout est rassemblé à la même adresse. Donc, pour le mandat de la compagnie, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, ça rend l'inclusion et l'accessibilité plus facile à réaliser, quoi.
Alors, Catherine, avant d'arriver à cette fin d'entrevue, il faut quand même redonner les dates. C'est du 12 au 30 mai. Donc, ça vous fait recevoir combien de personnes par jour?
On reçoit 6 personnes à l'heure. Donc, on a 3 petits dispositifs de décor. Donc, c'est une personne à chaque 10 minutes.
D'accord.
Puis en tout, sur ces 3 semaines de diffusion-là, on prévoit recevoir autour de 500 spectateurs et spectatrices. Donc,
fantastique.
Voilà, une personne à la fois.
Bon, comment ça va? Comment vous vous sentez là maintenant? Le 12, c'est bientôt?
C'est bientôt.
Oui, c'est la semaine prochaine.
Ouais. Voilà, c'est ça. S'en vient. Demain matin, c'est le montage du décor. Puis après, ce vendredi, les enchaînements techniques avec les actrices. Mais la joie, vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'on a après un an plus tard d'être capable de faire du théâtre et d'accueillir
bien
des spectateurs.
C'est,
Arlette, ça se sent dans sa voix quand elle parle. Hein.
C'est fantastique. J'ai déjà assisté à des choses qu'ils avaient faites et vraiment... bravo, hein, bravo pour ce que vous faites et c'est une belle compagnie en tout cas. Et puis j'ai hâte d'entendre Violette me parler dans le casque. Voilà.
Oh. C'est bien dit, c'est très bien dit. Merci beaucoup à vous deux pour votre accueil, votre côté très chaleureux.
Merci.
Merci est à toi.
Bonne chance pour tout le reste. Catherine. Voilà, pour la continuité.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors on part.
Ça te ferait donc du bien d'aller te faire chauffer le cul, ben assis installé dans un tout inclus. T'es blanc comme un drap, vitamine en carence. T'es au bout du rouleau, ça se voit à l'œil nu. Ça fait que pogne-toi un deal. Au plus sacré, Martinique, Caraïbes, ben les îles Caïmans. Sors ta chemise fleurie, ton chapeau, tes gougounes. Tu pars avec l'intention de plus faire la baboune. Mais lundi matin, tu te lèves magané. Mardi matin, t'es encore
cul. Tu t'es promené tout nu, t'as dealé des cigares, t'as dormi dehors, t'as croisé une matante, tu t'es fait barrer, tu pars. Cerné jusqu'aux genoux, trace de chaise jusqu'au cou. T'as pris 4-5 livres, engraissé même des chevilles. À deux mains dans le buffet, c'est bouché de tes côtés. C'est bien sûr que c'est bien clair que tu reviendras torché. Lundi matin, tu te lèves magané.
Mardi matin,
t'es encore magané.
Alors, on vient d'entendre Ponton Partez, tout inclus. Voilà. Pour finir, en fait, parce que nous sommes à la fin de cette émission, Fulgence.
Oui, ça va tellement vite.
Ça va vite, alors, c'est vrai.
Voilà, moi, ce que j'avais voulu savoir, mais comment les gens, comment les gens pouvaient se brancher, comment il faut aller sur le site du théâtre, comment ça s'appelle?
Mais on y va, on y va en personne, on ne peut pas le voir de chez soi.
Il faut, c'est
en présentiel.
Une seule personne.
Oui, une seule personne à la fois.
Wow.
Une seule personne à la fois. Alors, merci beaucoup à Catherine Bourgeois. On répète, à l'espace libre. Et ça s'appelle Violette.
Violette, oui. C'est comme si on allait chez le curé pour se confesser, quoi.
Quelque part. Je ne vois pas le lien avec la confession, mais je vois plutôt aller chez une amie qui nous raconte quelque chose de douloureux et on est une oreille attentive. J'aurais plus vu dans ce sens-là. Mais
ouais,
bon, je te laisse ton choix, Fulgence.
C'est ça, regard croisé, parce que...
Il t'appartient.
Voilà.
Et donc, voilà, bah, tu nous as donné une certaine...
Oui, tu peux rappeler la date?
La date, c'est du 12 au 30 mai, ce qu'on a dit, donc du 12 au 30 mai à l'Espace Libre, et ça s'appelle Violette.
Deux bonnes semaines, quand même, oui.
Deux bonnes semaines et des places ultra limitées, donc prenez votre place, votre horaire, etc., ça prend du temps. Merci à Catherine Bourgeois. Puis à toi, bien, merci de nous avoir présenté les derniers livres sortis. On saura vers où se diriger si on a envie de lire un de ces livres. C'est intéressant. Merci.
Ouais, c'est ce qui fait que je donne toujours les maisons d'édition. Et tout un
c'est
librairie,
bien.
Quoi, voilà. Merci à Maurice.
Merci Maurice Bolduc pour les chansons.
Le complice à la console.
Et puis à vous toutes et vous tous. Et on se dit à demain, Fulgence.
Ah ouais, non, on se voit demain. On dit ciao, c'est tout.
Bye bye.
Bye bye.